Super! Donc, ce matin, on s'en va dans un livre de la Bible un peu plus méconnu. Hein, peut-être vous allez me dire, Habacuc, c'est qui ça? Habacuc, c'est un petit prophète. Donc, on est peut-être un peu moins familier avec ses écrits, mais on va faire le livre d'Habacuc ensemble sur 3 semaines. Donc, le livre d'Habacuc contient 3 chapitres. C'est donc bien le fun. On fait une micro-série sur ce livre-là. La série s'intitule « Parle, attends et regarde ». Donc, c'est une série qui veut aborder 3 postures. 3 postures intérieures pour faire face à l'injustice et à la souffrance collective. Vous savez, la souffrance dans le monde, c'est un gros sujet. Quand on regarde les nouvelles, si vous écoutez un peu les nouvelles comme moi, vous pouvez vous sentir découragé assez rapidement. Hein, quand on voit qu'est-ce qui se passe en Haïti, au Congo, au Liban, en Palestine, dans toutes sortes de pays du monde, et plein d'autres pays certainement, dont on ne nous parle pas nécessairement à toutes les semaines, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Pourquoi une nation va bien, l'autre ne va pas bien? Ce matin, on va entrer un peu dans ce que ça veut dire avoir la bonne posture intérieure pour faire face à l'injustice et à la souffrance. Mais pourquoi se pencher sur les écrits prophétiques? Hein, c'est dans l'Ancien Testament, ça nous arrive de loin, on peut se sentir parfois un peu déconnecté. Eh bien, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'injustice et les impacts que ça a sur la société sont encore d'actualité. Et les prophètes nous parlent beaucoup de justice sociale. Elles nous parlent beaucoup de qu'est-ce qui arrive quand le mal prend trop de place dans une société. Elles nous parlent beaucoup de qu'est-ce qu'on doit faire comme peuple, comme nation, comme groupe. Donc, c'est des écrits qui souvent adressent beaucoup les réalités collectives et donc pas juste les réalités individuelles. La parole de Dieu, elle est complète. Elle nous parle de réalités individuelles, mais nous parle aussi de réalités collectives. Donc, c'est une des raisons pour qu'on peut se pencher sur les écrits prophétiques. Une autre, c'est qu'il nous aide un peu à réajuster nos lunettes pour avoir une perspective un petit peu plus complète de la réalité. Si vous venez d'une société qui est plutôt individualiste, peut-être vous avez tendance à penser en termes de « moi », ce qui se passe dans mon cœur, dans ma vie, et vous vous sentez peut-être parfois déconnecté des réalités plus grandes, des réalités plus collectives. Si, d'un autre côté, vous venez d'une société un peu plus collective, hein, l'individu parfois peut se perdre dans le groupe. Les écrits prophétiques nous aident un peu à réajuster nos lunettes, à avoir une vision un peu plus globale. Vous me direz, ça va de soi, mais notre vie est de faire autrement. Autant autosuffisant qu'on veut être, on ne peut pas se détacher de la société dans laquelle on vit. On a tous besoin d'aller à l'épicerie, on a tous besoin de payer nos impôts au gouvernement, on a tous besoin de s'intégrer d'une manière ou d'une autre à la société. Alors, on jouit d'une certaine manière, on profite, on tire des bienfaits hein, de l'intégrité, de la bonté qui se trouve dans notre société, mais on vit aussi les conséquences du péché, les péchés qui sont tolérés, les péchés qui sont encouragés. Alors, lorsqu'on vient devant la parole de Dieu, et particulièrement les écrits prophétiques, on entend un petit peu parler de ça, hein, moi dans la société, moi, dans l'injustice qui se passe dans mon monde. Que le Seigneur, ce matin, puisse ouvrir nos yeux à sa parole, qu'il puisse ouvrir nos yeux afin qu'on puisse comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Alors, je vous invite à prendre un petit moment pour ouvrir vos cœurs à Dieu ce matin. Éternel, viens et ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits afin qu'on puisse comprendre ce que ta parole veut nous enseigner ce matin. Ô Seigneur, même si c'est pour nous aujourd'hui, nos cœurs puissent être prêts à comprendre ce qui est d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc, viens, Éternel mon Dieu, fais ton œuvre en nous. On te donne le privilège, on te donne l'opportunité de nous toucher ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, la Bible est complète. Et Habacuc, qui n'est qu'une petite partie du puzzle. Si vous espérez ce matin que je vous dise tout ce qu'il y en est par rapport à l'injustice et la souffrance dans ce monde, vous allez être un petit peu déçus. Hein, pas juste pour ce matin, mais pour cette petite série-là de trois messages. Habacuc, il nous parle de vérités importantes, mais il nous parle de certaines vérités, certaines réalités, selon le ministère que Dieu lui a donné. Donc, Habacuc, il se préoccupe de certains thèmes comme comment est-ce que je peux réconcilier ma foi en un Dieu juste et la souffrance dans le monde. OK, Dieu, il est juste là, mais ça va vraiment pas bien autour de moi. Voyons, il me semble que ça fait comme 1 plus 1 égale 8. Il me semble que ça marche pas, ce calcul-là. Habacuc, il va nous parler un petit peu de ça. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça dans notre relation avec Dieu? Habacuc va nous parler aussi de comment est-ce que j'entre en relation avec Dieu quand je suis choquée de ce qui se passe ou de ce qui va arriver. Comment est-ce que je suis capable de maintenir ma relation avec Dieu quand je suis confrontée à une incompréhension, quand je suis confrontée à la souffrance et au mal? Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Je pense que oui, hein? Quand on regarde les nouvelles, quand on regarde notre propre vie, on vit tous des expériences d'injustice. Comment est-ce que je peux rester attachée à Dieu? Mais Dieu, il ne fait pas juste ça dans sa parole, hein? Il y a d'autres prophètes qui vont adresser d'autres questions par rapport à la souffrance et à l'injustice. Comme par exemple Jérémie. Hein? Jérémie va nous parler de questions comme la réponse collective que Dieu attend de ses enfants face à l'injustice. Et etc., etc. Donc, Dieu, comme je vous dis, nous parle à travers Habacuc, mais il nous parle aussi à travers d'autres prophètes. Ce matin, on va bâtir sur des thèmes qu'on a vus aussi durant l'été. Si vous aviez été là un petit peu durant l'été, on a vu une série sur les psaumes. Donc, dans les psaumes, on a déjà parlé un petit peu de la souffrance, de l'injustice, du jugement de Dieu. Donc, ce matin, on bâtit sur ce qu'on connaît déjà de la parole de Dieu, mais on va continuer, on va devoir continuer à bâtir encore pour avoir une théologie un peu plus complète de la souffrance dans le monde. Donc, parlons un petit peu, alors qu'on débute cette série, d'Habacuc et de son contexte. Hein? Comme on se disait tout à l'heure, c'est qui lui? Il habitait quand? Il vient d'où? Bon, on peut avoir toutes sortes de questions par rapport à Habacuc, comme c'est un petit prophète. Donc, Habacuc débute son ministère auprès de Juda après l'exil d'Israël. Donc, ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël, la nation, si vous vous souvenez, à un moment donné, hein, David était roi, il y a eu un autre roi, et puis tout d'un coup, boum, le royaume a été divisé en deux. Donc, il y avait deux régimes, deux rois différents, si vous voulez, deux régimes politiques. Et puis, Israël, Dieu a envoyé des prophètes à Israël, il a envoyé des prophètes à Juda. Et Israël a déjà vécu la conséquence, donc ils ont de leur péché, ils ont été déportés. Donc, Israël ont été envahis par d'autres nations. Mais Juda continue, lui, dans ses mauvaises habitudes. Hein, la société continue de se dégrader. Et Habacuc est là avant que eux, de leur côté, soient envahis par les Babyloniens. Donc, Habacuc débute son ministère dans ce contexte-là. Habacuc n'est pas seul, il est prophète auprès de Juda en même temps que d'autres prophètes. C'est pour ça que je vous disais que quand Dieu nous parle, des fois, il parle à son peuple à travers différentes sources. Et donc, dans le même temps qu'Habacuc avait son ministère, il y avait d'autres prophètes aussi qui parlaient au peuple. Donc, ça, je l'ai déjà dit, avant l'invasion babylonienne, peut-être que vous aurez dans vos Bibles chaldéennes, c'est sensiblement la même chose. Donc, c'est le même peuple dont il est question. Les Chaldéens étant une sous-division, si vous voulez, des Babyloniens. Donc, Habacuc a son ministère également durant une période de révolte collective contre Dieu. Donc, ce n'est pas juste des individus isolés qui décident de se détourner de Dieu, mais c'est une société, en fait, qui se détourne de Dieu. À beaucoup de leaders qui entraînent les gens et les gens qui embarquent dans ces pratiques-là que Dieu n'approuve pas. Donc, c'est le contexte dans lequel Habacuc travail. Pour vous aider un peu à comprendre le contexte historique, vous voyez ici en orange, c'est un estimé des dates du ministère d'Habacuc. Ce que vous voyez en mauve, c'est les autres prophètes que Dieu a envoyés à Juda. Donc, peut-être c'est un peu petit pour vos yeux, je vais vous aider un peu. On a Nahum en haut, le premier en haut. Si on descend en bas, on a le prophète Jérémie. Si vous voyez Jérémie, là, son ministère dure plus longtemps que celui d'Habacuc, mais il est exactement en même temps. Et puis, on a Sophonie ensuite en bas de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a Abdias. Donc, en vert, on voit les prophètes qui travaillaient auprès d'Israël. Donc, si vous voyez, ça se chevauche et ça se chevauche de près. Parfois, un prophète termine son ministère et voilà que Dieu en envoie un autre, ou littéralement, ils font le travail en même temps. Donc, ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. Habacuc commence son ministère alors que les Babyloniens ont déjà envahi Ninive. Donc, ils ont déjà une réputation d'être des « rough and tough ». Des pas fins, des gens qui sont cruels lorsqu'ils viennent pour dominer un autre peuple. Habacuc commence son ministère et dans le début de son ministère, on estime qu'il y aura eu, ou un petit peu avant son ministère peut-être, la mort du roi Josias. Donc, si vous vous souvenez, le roi Josias, il avait amené une réforme religieuse pour aider les gens à se retourner vers le Seigneur, mais les rois qui l'ont suivi et ceux qui l'ont précédé n'étaient pas du tout dans la même pensée. Ils étaient plutôt dans la méchanceté. Et finalement, on voit juste un petit peu avant la fin du ministère d'Habacuc que c'est là qu'aura lieu l'invasion des Babyloniens. Donc, ce moment-là, ce que Dieu avait prédit à travers les prophètes est arrivé alors que le peuple refuse de se repentir. Pour nous aider à comprendre un peu le contexte, on va lire un petit passage dans Chroniques qui décrit un peu qu'est-ce qui se passait dans le temps d'Habacuc. Donc, le texte dit ceci. « Le roi fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie. » Si vous vous souvenez, le prophète Jérémie était en même temps que le prophète Habacuc. « Qui lui parlait de la part de l'Éternel. » Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Oh, OK. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers. Messager qui est un synonyme ici de prophète. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, c'est-à-dire le temple. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rièrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens. Donc ça nous résume un peu le contexte. Le texte nous dira, ils se sont moqués des paroles de Dieu. C'est même les tout ça. Et on voit que le mal est quand même bien répandu. C'est pas juste le roi, c'est même les prêtres. Oh, attendez un petit peu, là. Les prêtres, ça, c'est les gens qui sont supposés représenter Dieu, là. Même eux sont tout croches. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Ça arrive, ça, dans des nations où est-ce qu'on s'éloigne de Dieu, où même les gens qui devraient le représenter ne le représentent pas comme ils devraient. Mais Dieu était patient, c'est ce que le texte nous dit. Il a envoyé des prophètes, encore, longtemps d'avance, nous dira le texte. Il leur envoya très tôt et sans se lasser. Donc, on est dans un contexte où Dieu utilise Habacuc pour travailler encore. C'est un de plus, une voie de plus pour ramener vers lui son peuple. Et on va aller directement maintenant dans le premier chapitre d'Habacuc. Je vous lis de la parole de vie, qui est une version française un petit peu plus simple, plus facile pour nous à comprendre, et qui garde bien les images là, du texte aussi. Donc, on commence au début du chapitre d'Habacuc. Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Habacuc dans une vision. « Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps? Tu n'écoutes pas? Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Sans réagir. Partout autour de moi, les gens pillent, c'est-à-dire qu'ils volent, et agissent avec violence. Il n'y a que des procès et des disputes. Personne n'applique les lois. Personne ne rend la justice comme il le faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. » Le Seigneur dit, « Observez bien ce qui se passe parmi les autres peuples. Soyez étonnés et très surpris. Oui, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous raconte cela, vous ne le croirez pas. Je vais faire venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ils vont partout sur la terre pour conquérir les régions qui ne sont pas à eux. Ce sont des leurs pouvoirs. Leurs chevaux courent plus vite que les léopards. Ils sont plus rapides que les loups qui vont chasser le soir. Leurs cavaliers arrivent de loin et bondissent. Ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Ils arrivent tous pour piller, le visage tendu en avant par l'envie. Ils rassemblent des prisonniers, aussi nombreux que les grains de sable. Ces gens-là se moquent des rois. Ils traitent avec mépris ceux qui gouvernent. Ils n'ont pas peur des villes bien protégées. Ils font des terrasses de terre pour les prendre toutes. Ils passent comme une tornade et continuent leur chemin. Pour eux, ce qui compte, c'est leur force. Elle est leur Dieu. Depuis toujours, c'est toi qui es Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Seigneur, tu as choisi les Babyloniens pour nous juger. Toi, mon solide rocher, tu les as chargés pour nous punir. Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal. Tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant, tu regardes sans rien dire ceux qui trompent les autres. Quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, tu ne dis rien. Tu traites les humains comme les poissons, comme les petites bêtes qui n'ont pas de maître. Oui, pourquoi? Les Babyloniens prennent les gens comme les poissons pris au crochet. Ils les ramènent dans leur filet et ils sont fous de joie. Ils offrent des sacrifices à leur filet. Ils brûlent de l'encens en leur honneur. En effet, grâce à eux, ils attrapent beaucoup de poissons et mangent une nourriture délicieuse. Est-ce qu'ils arrêteront un jour d'utiliser leur filet pour tuer sans pitié les autres peuples? Des grosses questions qu'Habacuc se pose. Hein? Peut-être des questions qui ressemblent à des questions que nous-mêmes, on se pose devant l'injustice dont on est témoin. Pourquoi, Seigneur, tu... Moi, je sais que tu vois tout, là, mais pourquoi tu sembles faire rien en ce moment? Pourquoi est-ce que tu permets que des méchants... Tu sais, même si mon peuple est méchant, là, pourquoi tu permets que d'autres méchants leur face du tort, mais semble que t'es juste, Dieu. Donc, Habacuc écrit ce message et je vous dis juste comme un petit secret ici qui n'est pas vraiment un secret. Si c'est dans votre Bible, hein, c'est parce qu'on l'a avec Dieu dans son journal intime. Mais il a ouvert son cœur publiquement. Il a permis que d'autres voient qu'est-ce que qui se passait dans son cœur et comment Dieu a répondu à son cri, à son appel. Donc, c'est très intime, mais c'est à la fois très intime et très public, le livre d'Habacuc. Ce matin, on commence une série, comme je vous disais, une série qui nous apprend que devant l'injustice, l'enfant de Dieu fait trois choses. Il parle, il attend et il regarde. Ce matin, on va voir le premier point seulement. L'enfant de Dieu devant l'injustice, il parle. Si vous voulez connaître la suite, vous allez devoir être là les deux prochains dimanches. Fait que c'est comme une série, tu sais, comme une série télévisée, là, pour, je mets un peu de suspense là, pour connaître la suite, il faut être là la semaine prochaine. Donc, devant l'injustice, l'enfant de Dieu parle. Et là, c'est comme une série qu'il faut regarder un peu dans l'ordre. C'est-à-dire que Ce sont des étapes que le Seigneur nous propose de suivre. On commence en parlant, on commence ensuite, on attend, ensuite on est capable de regarder. Donc, commençons avec le début, commençons avec l'enfant de Dieu parle. Mais avant ça, avant de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire parler, allons voir un petit peu un résumé de qu'est-ce qu'on vient de lire dans le livre d'Habacuc. Les choses ne vont pas dans mon pays, dit Habacuc. Dieu a donné des commandements, mais ces commandements-là ne sont pas respectés. Hein? Ceux qui devraient les respecter ne les respectent pas. Ça va plus loin que ça, c'est ceux qui devraient mettre en application les lois sont eux-mêmes injustes. Donc là, il y a une question de se dire, bien, Dieu a donné sa loi, hein? Dieu a donné des commandements, il nous a donné la Bible, il nous a dit, tu voleras pas, tu tueras pas, tu commettras pas l'adultère, etc. Mais si on ne les met pas en pratique, ces commandements-là, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur notre société? Si les gens qui sont en position d'autorité ne les mettent pas en application et font l'inverse, le prophète Habacuc se demande, mais comment est-ce que ta parole peut être puissante dans ma nation? Comment est-ce qu'elle peut être puissante parmi nous si on ne choisit pas de la mettre en pratique? Il dit, Dieu, ça ne va pas dans mon pays. On dirait que tu ne fais rien pour restaurer la justice parce que moi, là, je crie désespérément vers toi, Dieu. Pas juste pour moi, là, pour mon pays. Puis les choses ne changent pas. Vous savez que Dieu nous dit la vérité. Hein, et il nous aide à enlever nos lunettes roses, à voir le monde tel qu'il est. Et c'est ce qu'il fait un peu avec Habacuc dans le texte, dans le premier chapitre. Il dit, bien, Habacuc, les choses n'iront pas mieux tout de suite. Ouch! C'est pas ça qu'on s'attend, hein? On a des belles attentes, on se dit, non, mais moi, j'ai prié, ça doit aller mieux tout de suite. Et là, que le Seigneur montre à Habacuc, c'est un peu différent. Parfois, c'est comme ça dans notre vie aussi. On aimerait que les choses aillent mieux tout de suite, mais Dieu a d'autres choses à nous montrer avant. Et Dieu dit ceci un peu indirectement au prophète Habacuc. Il dit, Habacuc, je vais permettre à Juda, à ta nation, à ton peuple, de trouver chaussure à son pied en étant envahi par les Babyloniens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'êtes pas familier avec cette expression-là, trouver chaussure à son pied, ça veut dire, c'est une image, hein, comme peut-être vous aurez vu Cendrillon, la princesse Cendrillon, hein, pour que le prince sache que c'était la bonne, il fallait qu'il mette la chaussure et que la chaussure lui fasse. Mais quand on dit trouver chaussure à son pied, c'est trouver quelqu'un qui est pas mal pareil comme nous. Hein? Et là, ça nous confronte. Donc, peut-être une personne qui, par exemple, aura un certain péché dans sa vie, rencontre une personne qui a exactement la même sorte de péché, et là, tout d'un coup, il est confronté que, « Oh, c'est le fun quand je fais ce péché-là, mais ce n'est pas le fun quand quelqu'un le fait contre moi. Hein? » Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe ici au niveau collectif. Et Habacuc répond, il dit, pourquoi Dieu permet-il que d'autres méchants les punissent? Pourquoi est-ce que, étant juste, il empêche-t-il pas le mal? Est-ce qu'il va y avoir une fin à toute cette violence? Lorsqu'on est confronté à la méchanceté de l'être humain qui se détourne de Dieu, lorsque ça fait longtemps hein, qu'on voit toutes sortes de méchancetés, que ce soit dans notre famille ou dans notre société, des fois on perd espoir et on se dit, Seigneur, est-ce que ça va vraiment finir, tout ça? Est-ce que vraiment, il va avoir une fin? Mais alors que Habacuc parle, il fait aussi des choses alors qu'il parle. Il ne parle pas n'importe comment, Habacuc. Habacuc, il décrit les méchants. Autant ceux dans son peuple que ceux qui vont en... Hein, il va dire, « Voyons, Seigneur, on dirait que tu as fait les êtres humains comme des petits poissons là, dans la mer puis qu'il n'y a pas personne là, pour les guider. » là. C'est comme l'image qu'il nous donne, c'est des petits poissons qui vont dans tous les sens. Hein, avez-vous déjà essayé de domestiquer un poisson? Bonne chance. Bonne chance. Hein? C'est pas comme domesticable. Et il dit, « Bien, il me semble que Dieu, là, quand je regarde le monde aujourd'hui, là, l'être humain, c'est comme un poisson que tu essaies de dompter. » Ou, comme Pasteur Michael dirait, c'est comme une horde de chats. C'est comme être le berger d'une horde de chats. Ça ne marche pas, Dieu. Et il se permet d'exprimer avec toute vérité qu'est-ce qui vit à l'intérieur de lui, comment il est confronté à ça. Ça nous apprendra certainement que c'est correct de venir devant Dieu avec nos questions. C'est correct de lui présenter notre souffrance, notre incompréhension. Ce n'est pas un péché. Plutôt que le garder dans son cœur, Habacuc le présente à Dieu. Il le vit avec Dieu. Frères et sœurs, des incompréhensions, on va tous en vivre. Mais notre succès va dépendre de Dieu versus le vivre avec nous-mêmes. Habacuc fait une autre chose aussi. Il verbalise sa frustration, son incompréhension, en essayant de trouver un sens à ce dont il est témoin. Ah, pourquoi? C'est tous ces pourquoi-là. Il est en recherche de sens. Il essaie de comprendre. Il essaie de réconcilier ce qui semble faire 1 plus 1 égale 8. Donc, ce qui semble n'avoir aucun sens. Et Habacuc appelle Dieu à l'aide. Jusqu'à quand, Seigneur? Vois ma misère. Vois notre misère. Habacuc appelle Dieu à l'aide. Le méchant, nous dira-t-il, il est un prédateur. Et ça, c'est toutes des images tirées d'Habacuc. Il est comme un vent violent ou un ouragan. Hein, si vous voyez de ce côté-là, il détruit tout sur son passage. Hein, tout est démoli après un grand vent. Il fait la loi sur la terre. Hein, y en a-tu qui ont eu envie d'argumenter avec un de ces animaux-là? Alors, il y a envie d'argumenter avec le loup et de dire « Oh non, passe pas ici, c'est mon chemin ». Moi, avec cette face-là, c'est moi qui me tasse. Hein? Donc, il décrit le méchant, il dit, le méchant, il est comme ça, il fait la loi sur la terre, puis il n'y a personne pour le domestiquer. C'est ça que j'ai l'impression, Dieu, quand je regarde le monde, puis ça me confronte. Mais pourquoi ce matin, dirons-nous, décrire l'offense et ses répercussions? Tu sais, il aurait pu dire tout simplement, « Bon Dieu, le méchant, c'est un prédateur. » Pourquoi aller dans tous ces détails-là? Hein? Pourquoi pas juste dire, « Bon, Dieu, j'ai une question. Tu y répondras quand tu auras le temps. Hein? » Pourquoi est-ce qu'Habacuc se permet d'aller profondément dans une description du mal, de qu'est-ce qui le choque? Eh bien, il semble qu'il y a quelque chose qui se passe quand on se permet de tout dire à Dieu, quand on se permet de ne pas se censurer, de vraiment ouvrir son cœur pleinement à Dieu. Et ce matin, on dit « parle ». C'est la première réaction face à l'injustice par rapport à l'incompréhension. « Parle ». Censure-toi pas avec Dieu. Ouvre ton cœur pleinement à Dieu. Dieu, là, il est capable de recevoir pas mal n'importe quoi. Il y en a vu d'autres. Vous pensez que vous êtes désabusé, que vous avez tout vu. Croyez-moi, Dieu en a vu beaucoup plus que vous. Il en a entendu beaucoup plus que vous. Une des raisons dont on peut se dire pourquoi est-ce qu'on peut décrire tout ça, en fait, c'est que Habacuc, c'est juste un dans la masse, comme je vous disais. Hein? Il fait partie d'un groupe bien plus large que Dieu nous a donné, de gens qui se sont permis de faire la même chose. Donc, c'est vraiment un principe qu'on voit décrit dans plusieurs livres de la Bible. Et on le voit aussi dans des exemples. Même Jésus lui-même ne s'est pas caché pour dire, lorsqu'il était au jardin de Gethsémané, « Seigneur, mon âme, là, elle est complètement à l'intérieur de moi, bouleversée. » Et là, il parle de la coupe. Il décrit ce qui va lui arriver parce qu'il sait qu'est-ce qui va lui arriver. Il donne des prophéties par rapport au fait qu'il va être tué, ça va arriver. Donc, même Jésus, il n'a pas honte de parler de la souffrance qu'il va vivre avec Dieu dans la... Pas juste avec Dieu dans la prière, mais il en parle même à ses proches autour de lui, à des gens en qui il a confiance. Wow! Ça doit nous amener à réfléchir. Bien pratico-pratique, on dit que les on met des mots, c'est-à-dire des souffrances, des douleurs, des problèmes, hein, sur les mots qu'on a gardés pour soi. Donc, si vous gardez tout ça dans votre cœur et que vous dites, ben, ouais, je veux juste faire confiance à Dieu, là, puis que vous réprimez tout ça, là, ben, ça se peut qu'il y ait des conséquences à ça pour votre vie spirituelle, votre marche avec Dieu, mais aussi même pour votre santé physique. Donc, c'est quelque chose qu'on sait hein, par expérience, mais c'est quelque chose qui est documenté aussi au niveau du trauma. Donc, un exemple, ce serait, par exemple, il y a un psychiatre qui a écrit un livre qui s'appelle « The Body Keeps the Score ». Donc, c'est « Le corps garde hein, des... » Donc, le corps garde les traces hein, des traumas qu'on a vécu et qu'on n'a pas voulu adresser, qu'on ne s'est pas permis d'adresser. Ou peut-être des fois, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu ou qu'on ne s'est pas permis, mais parfois, c'est qu'on ne sait pas comment. Hein? Des fois, il y a des choses qu'on vit qui sont tellement lourdes qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et c'est là qu'on a besoin de, comme Habacuc, vivre dans une communauté, appartenir à l'Église, avoir des frères et sœurs pour nous épauler, pour nous équiper, pour faire face à ça. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Un autre point, encore là, à la fois biblique et pratico-pratique, on dit que l'héritage des blessures non traitées se transmet à nos enfants et à ceux qui font de nous un modèle dans leur vie. Là, vous allez me dire, « Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? » Eh bien, les gens, ils apprennent de nous, hein, de manière pratico-pratique. La Bible nous dit, en fait, vous vous souviendrez dans l'Ancien Testament qu'elle dit que les fautes des parents en se transmettent jusqu'à 3-4 générations. Fait intéressant, il y a des études maintenant qui suggèrent que même au niveau génétique, il y a une transmission qui se fait de 3-4 générations. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit à ce niveau-là, ça s'appelle « It didn't start with you », ça n'a pas commencé avec toi. Donc, en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est si moi, je n'ai pas adressé par le pardon hein, un péché que j'ai commis ou qui a été commis envers moi, ben après, mes enfants, mes petits-enfants et peut-être même mes arrière-petits-enfants, même s'ils ne m'ont pas connu, qui n'ont pas été élevés avec moi, ils vont avoir en eux des réactions qui sont liées à ces choses-là. Soit pour le reproduire, comme un agresseur ou la personne méchante, soit pour, à l'inverse, avoir des réactions peut-être de peur qui sont associées à ça et qui ne sont pas capables de rationaliser parce qu'ils ne savent pas. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas géré. Donc, Dieu veut que, que lorsque nous parlions, que lorsque nous traitions de ces choses-là avec lui, ce ne soit pas juste pour nous, mais ce soit pour les générations à venir, les gens qui vont nous prendre comme modèle. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Donc, il y a de l'espace pour ça. Peut-être ce matin, vous me direz, mais pourquoi dialoguer avec Dieu par rapport aux incompréhensions et aux émotions? Bien, tout d'abord, je vous dirais que si vous vivez dans le même monde que moi, c'est un peu inévitable. Vous allez être confronté au chaos, au mal, à la souffrance, à l'injustice. Et si vous voulez vivre une relation authentique avec Dieu, ben il va falloir y faire face. Le seul chemin vers une intimité profonde avec Dieu, c'est de lui parler de ces choses-là. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on vit une vie spirituelle un peu superficielle. Bon, moi, je vais à l'église le dimanche, mais tu sais, la semaine, la prière, je trouve ça plate, là, tu sais. Non, je n'ai pas besoin de ça, là. Où je lis un petit peu, puis je me développe une religion avec des règles à suivre, des choses à faire, mais finalement, Dieu, ce n'est pas vers lui que je me tourne quand ça ne va pas bien. Je me tourne peut-être vers la nourriture. Ah, je vais me faire un bon Sunday, il me semble que je vais filer mieux, là. Peut-être que je vais passer mes soirées à écouter la télévision. Je vais me remplir avec plein d'autres choses parce que je n'ai pas donné la place à Dieu pour vivre avec lui mes émotions, mes incompréhensions. Je ne me suis pas donné le droit de lui parler de ces choses-là. Donc, je me mets en mode silence. Et c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on commence lorsqu'on fait face à la souffrance, à l'injustice. On commence pas avec le silence. On commence en parlant avec Dieu. On commence en entrant en relation avec lui de manière authentique. L'une des autres raisons pourquoi on fait ça, c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Il veut nous parler lui aussi. Il veut nous consoler. Hein? Le livre de 2 Corinthiens au chapitre 1 nous dit que Dieu, c'est un Dieu de consolation. Il veut nous consoler et ensuite se servir de cette consolation-là qu'il nous a donnée pour qu'on puisse en consoler d'autres dans le corps de Christ. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir entrer dans cet appel de Dieu-là pour votre vie, dans le milieu de votre souffrance, si vous n'êtes pas prêt à vous laisser consoler par Dieu, si vous n'êtes pas prêt à le laisser faire ce chemin-là avec vous? Et Dieu nous console, je dois vous dire, lorsqu'on lui en donne l'opportunité. Oui, c'est vrai, Dieu, des fois, nous shake un petit peu, nous sort de notre léthargie, mais la plupart du temps, là, il nous laisse libres. Il nous appelle, il nous invite, il nous dit, « Mon enfant, parle-moi. Parle-moi de manière authentique. Ouvre-moi ton cœur pleinement. Aie pas peur, même si tu comprends pas. Aie pas peur de me froisser, là. Je suis là, je t'entends. Je suis là, je suis avec toi. » Vous me direz peut-être, pourquoi appeler Dieu à l'aide si, en fait, c'est avec Dieu que je suis fâchée? Si, en fait, c'est Dieu que je remets en question, pourquoi je l'appellerais lui à l'aide? Je me souviens un moment dans ma vie, il y a quelques années, j'étais triste par rapport à une situation. J'avais été triste pour longtemps par rapport à cette situation-là. Mais là, particulièrement cette soirée-là, j'avais l'impression que j'avais passé des années dans le fond du baril, puis que là, il y avait comme un autre fond. Je dis, mon ami, je savais pas que je pouvais aller plus creux que ça. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Et j'ai senti quelque chose dans mon cœur que j'avais jamais senti avant. J'avais plus envie de continuer. J'étais fatiguée. Ça s'est pas rendu à ce que j'ai des idées suicidaires, mais j'avais juste plus envie de vivre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça, là? C'est pas la première fois que je crie à toi par rapport à ça. Et ce qui est monté sur mon cœur, là, c'est les paroles que Pierre a dit à Jésus. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Seigneur, j'ai plus envie de continuer dans la marche chrétienne. J'ai plus envie de continuer à vivre, mais j'irai où? J'y étais dans le monde. Je sais que c'est pas là que j'appartiens. Je sais qu'en dehors de toi, il n'y a rien qui peut m'être offert. Et on l'entend un peu dans les paroles d'Habacuc aussi, ce cri-là du cœur. Lorsqu'il dit, depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu à moi, là. Tu es saint, tu ne meurs pas, c'est toi, mon solide rocher, là, c'est toi, Dieu. C'est toi. Et malgré son doute, malgré son incompréhension, il y a des affirmations de la foi. Il dit, moi, je crois que tu as les yeux trop purs pour regarder le mal. Je crois que tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Je le crois, même si je ne le comprends pas. Et il va y avoir des saisons comme ça dans notre vie, frères et sœurs. Et on appelle Dieu à l'aide, et lorsqu'on appelle Dieu à l'aide, ça demande quelque chose. Ça demande que la personne qui persévère malgré le doute ait quand même la foi. Quand Habacuc ouvre son cœur à Dieu de manière honnête, quand il lui parle de tout son cœur, il dit « Dieu, malgré tout, j'ai la foi. » Ça, c'est important de comprendre, parce que vous allez rencontrer des gens dans l'Église et en dehors de l'Église qui vont exprimer des choses comme ça. Et prenez pas pour acquis que ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Une personne qui dit « Ah, si Dieu était juste, il n'y aurait pas la souffrance. Non, si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance dans le monde, pardon. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance dans le monde. » Ils prennent pour acquis que Dieu est juste. Ils ont quand même la foi que s'il y avait un Dieu, il serait juste. Ils ont juste la misère à réconcilier. Donc, peut-être que vous allez trouver des gens qui ont ces débats-là extérieurs, qui vont l'exprimer d'une certaine manière, mais prenez pas pour acquis que c'est seulement un rejet de Dieu. Parfois, les gens ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on leur enseigne à exprimer ces choses-là, qu'on soit capable nous-mêmes de faire un peu comme Dieu et d'accueillir ces incompréhensions-là, qu'on soit capable de les laisser nous parler, qu'on soit capable de leur démontrer l'amour de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Lorsqu'on lui parle, il veut nous accueillir dans notre souffrance. On le fait, comme je disais plus tôt, parce que Dieu est le seul qui peut vraiment répondre à mes questions et à mes besoins. Ça ne sert à rien que j'aille poser la question à mon voisin. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Oui, un frère, une sœur peut m'aider à avancer, à discerner qu'est-ce que Dieu veut me dire, mais ultimement, cette conversation-là, je dois l'avoir avec Dieu. Je ne peux pas juste l'avoir avec quelqu'un d'autre. Parce que ça concerne mon Dieu, ça concerne ma relation avec Dieu. Donc, j'ai besoin de recevoir une réponse de sa part qui touche mon cœur. Alors, ce matin, tout simplement, la parole de Dieu nous dit, à travers Habacuc, « Parle, c'est correct, vas-y, ouvre ton cœur à Dieu, fais de la place dans ta vie de prière pour quelque chose d'autre que des requêtes. » Pour juste exprimer à Dieu, « Hey Seigneur, aujourd'hui, j'ai vu ça dans les nouvelles, ça l'a attristé mon cœur. Aujourd'hui, j'ai entendu, il est arrivé ça à un membre de ma famille, à un membre de mon peuple. Seigneur, je t'appelle, aide-moi à comprendre. Seigneur, je présente ta souffrance devant moi, devant toi, pardon. Parle-moi. » On ouvre le dialogue avec Dieu et c'est là que ça commence. C'est là que tout commence. Ça ne s'arrête pas là, mais ça commence là. On parle, on ouvre le dialogue avec Dieu. On lui explique le mal qu'on voit, on lui explique ses conséquences. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'y prend quand on veut pardonner à quelqu'un. Vous aurez peut-être déjà fait le processus de pardon. Quand vous faites un processus de pardon, on vous dit, bien, fais la liste des offenses. Fais la liste des conséquences que ça a eu sur ta vie. C'est difficile de pardonner quelque chose qu'on refuse de voir, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi ce qu'on fait avec Dieu lorsqu'on voit la souffrance dans le monde, le même. Hein? On va apprendre à déposer devant Dieu ces choses-là. Quelque chose d'émotion qu'on vit. On lui présente ce qu'on ne comprend pas et les émotions qu'on vit. Donc, autant notre intellectuel ici peut être engagé par Dieu que nos émotions, notre cœur. Hein? Dieu n'est pas juste le Dieu de mon intellect. Il n'est pas juste le Dieu de mes émotions. Il rejoint tout mon être entier. Il veut entrer en relation avec moi dans toutes les dimensions de qui je suis comme chrétien. Et c'est un peu ça, quand on est mature dans la foi, quand on progresse, on se rend compte qu'on ne peut pas juste donner une partie de nous à Dieu. Moi, les prières, c'est juste des actions de grâce. Ah ben non, hein, c'est pas juste ça qu'il y a dans la Bible. C'est pas juste cette manière-là qu'on est appelé à entrer en relation avec Dieu. On est appelé à rentrer en relation avec Dieu, avec qui on est, tout ce qu'on est. Et avec toutes les différents états d'âme, tout ça, on peut l'approcher de Dieu. Et finalement, lorsqu'on lui parle, on lui demande de faire quelque chose. On lui donne l'opportunité d'intervenir dans notre situation. Si votre situation est désespérée, si comme moi, là, vous êtes en dessous du fond du baril, là, que vous ne saviez pas qu'il y avait un sous-sol, là, ben, la meilleure personne encore pour vous répondre, c'est Dieu. « Mon rocher, celui sur qui je m'appuie », nous dira Habacuc. Mon Dieu, il n'y en a pas d'autre, là. Je n'ai pas d'autre place où aller. Mais peut-être ce matin, vous dites, « C'est pas comme ça qu'on m'a élevé. On ne m'a pas élevé à parler. On m'a dit, tu te tairas. » Eh bien, c'est vrai, il y a des voix qui veulent nous empêcher de parler. Il faut apprendre à les discerner. Il faut apprendre aussi à les mettre de côté. On a parlé un petit peu de la culture plus tôt, hein, qu'il y a des cultures qui sont plus individualistes, il y a des cultures qui sont plus collectives. Eh bien, aussi, dépendamment de notre culture, les trois étapes qu'on va voir, il y en a avec lesquelles on va être plus confortable que d'autres. Et c'est vrai, il y a des cultures familiales, il y a peut-être des tempéraments, des personnalités, et il y a même des cultures collectives. Hein, des nations ou des pays, où c'est mal vu de parler de ces choses-là. Mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est pas dans la parole de Dieu juste pour les gens, les familles ou les cultures qui sont confortables avec ça. C'est dans la parole de Dieu pour tout le monde. Ça veut peut-être juste dire que nous, on va avoir besoin de travailler un peu plus sur ce point-là. Ou peut-être vous verrez sur un autre point qu'on va voir plus tard dans la série. Donc, je vous donne des exemples. Hein. C'est dans le passé, tout ça, ça ne devrait plus t'affecter. De toute manière, tu es une nouvelle créature en Christ. Ça a l'air full spirituel en plus. Hey, c'est vrai que la Bible dit qu'on est une nouvelle créature en Christ. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de pardonner ce qui nous est arrivé dans le passé. Pourquoi? Parce que le manque de pardon, ça continue à affecter notre présent. Et comme on l'a vu un petit peu dans le message, ça peut même affecter le futur de d'autres personnes. Oh là là! Oui, je suis une nouvelle créature, mais j'ai quand même une responsabilité de Dieu, que Dieu me donne, hein, comme le dit sa parole, de pardonner un peu. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit? Pardonner à moitié? D'oublier? De pardonner de tout mon cœur. Oh, ça se peut que ça prenne de l'ouvrage, ça. Ça se peut que j'aie besoin d'y revenir quelques fois. Jusqu'à ce que mon cœur soit pleinement libre. Elle quand même. Donc, même si vous êtes une nouvelle créature en Christ, Dieu vous appelle quand même à faire ce processus-là avec lui de choses que vous aviez peut-être vécues dans votre passé. D'injustices qui sont peut-être arrivées dans le passé. Peut-être vous avez entendu, on ne dit pas ça, des choses comme ça, tu n'as pas le droit de te sentir comme ça. Bien, ce n'est pas vraiment ça que la parole de Dieu nous montre. Hein? Habacuc, il vient devant Dieu et il dit, « Moi, il me semble que je trouve que Dieu, je ne comprends pas, là. » Donc, sa foi, elle n'est pas incompatible avec ses incompréhensions. Sa foi, elle n'est pas incompatible avec le fait de dire la vérité à Dieu par rapport à qu'est-ce qu'il vit en ce moment dans son cheminement. Peut-être ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne va pas rien changer. Hein? Le monde est injuste, va continuer à être injuste. Pourquoi est-ce que j'en parlerais? Encore une fois, hein, ce qu'on a appris ce matin, c'est « Oh, oh! » Ben non, ça, oui, ça change quelque chose. Parce que ça va faire la différence dans ta maturité spirituelle avec Dieu. Ça va faire la différence dans tes réactions, peut-être dans celles de tes enfants. Ça va faire une différence. Ou en celui-là, parle, on va te juger. Il est donc bien pas mature dans la foi, celui-là. Hey, si elle avait la foi, là, elle ne dirait pas des choses comme ça. Frères et sœurs, une foi mature, c'est une foi qui est capable d'être vraie. C'est une foi qui est capable de dire les vraies choses à Dieu et d'inviter aussi des gens de confiance autour de soi à nous aider à réconcilier ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez connu des gens comme ça, moi j'en ai connu, des gens qui étaient dans l'Église et là tout d'un coup, du jour au lendemain, ils partent de « je suis très impliquée dans un ministère, je suis en feu » à « je ne viens plus à l'Église et je ne crois plus en Dieu ». Tu es comme « qu'est-ce qui s'est passé ?» Je veux dire, je ne l'ai pas vu venir là. Il n'y avait pas de signe, il n'y avait aucune idée. Mais il semblerait que ce que j'ai réalisé, c'est que ces gens-là, ils avaient beaucoup de choses qu'ils n'étaient pas prêts à dire. Beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses qu'ils vivaient. On n'en a jamais parlé. Je me souviens d'une personne en particulier, j'avais une rencontre à toutes les semaines avec cette personne-là pour l'aider à cheminer avec Dieu pour aller plus loin. Et tout d'un coup, du jour au lendemain. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourtant, je l'ai tellement invité, cette personne-là, à aller plus loin avec le Seigneur, à ouvrir son cœur. J'ai été moi-même vulnérable, je lui ai enseigné, j'ai essayé de lui modeler comment le faire. Mais parlez, là, frères et sœurs, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Être vrai, il n'y a pas personne qui peut le faire pour vous. Parfois, il y a des gens qui ont le meilleur contexte et qui ne savent pas en tirer profit. Il y en a d'autres, au contraire. Mon Dieu, ils ont donc bien de la difficulté à trouver la bonne personne avec qui s'ouvrir. Mais ils persévèrent encore jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne personne. Parce qu'ils savent que qu'est-ce qu'ils disent à Dieu, qu'est-ce qu'ils naviguent avec le Seigneur, ils ont besoin de l'aide du corps de Christ, d'un autre croyant pour faire la route avec eux. Donc, vos circonstances ne devraient pas déterminer votre obéissance, frères et sœurs. Peut-être une autre voix que je pourrais ajouter ce matin qui n'est pas sur la diapositive, c'est celui de le collectivisme versus l'individualisme et dire, ben, c'est pas mon péché, donc ça n'a pas de conséquences sur moi. T'sais, pourquoi je parlerais de Dieu à Dieu de ça? Ça ne me regarde pas. Frères et sœurs, on l'a vu au départ, hein, on vit dans une société. Même si la responsabilité du péché est individuelle, donc moi, je suis responsable de mes péchés devant Dieu, les conséquences du péché, elles sont collectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand moi, je décide de pécher, ça a un impact sur les autres autour de moi. Ça peut avoir un impact sur ma famille, sur mes amis, sur mon église, mais ça peut même avoir un impact sur ma société. Si moi, j'étais juge demain matin, là, puis que je décidais de mettre une loi qui disait, bon, je sais pas moi, les enfants de moins d'un an, c'est pas des enfants, faites ce que vous voulez avec, ben, on s'entend que ça aurait des répercussions sur la société, non? Bien sûr. Donc, on peut pas exclure l'aspect collectif de notre vie individuelle. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à prier pour nos gouvernements, pour nos autorités. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, on va être impacté par leurs décisions. Donc, on doit prier pour eux. On doit prendre nos responsabilités spirituelles d'intercéder dans ces situations-là. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans ma nation. Tu vois comment ça peut affecter la foi des gens. Moi, je ne comprends pas, Seigneur, comment tu permets ça. Mais si moi, je vis ça, là, bien sûrement qu'il y en a plein d'autres dans mon peuple qui vivent ça. Moi, j'ai décidé de rester attachée à toi, mais je ne sais pas si eux vont décider de rester attachés à toi. Seigneur, viens en aide à mes frères et sœurs qui, en ce moment, luttent dans leur foi à cause de l'injustice, à cause du péché. Dieu vous invite ce matin à parler, à être vrai. Vous savez vous-même ce matin où vous vous situez par rapport à ça. Y a-t-il quelque chose que vous gardez en vous? Je vous dis un secret, moi j'ai décidé dans ma marche chrétienne avec le Seigneur qu'il n'y a rien que je ne dirais pas à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je vais dire tout de moi à la même personne ou que je vais dire tout de moi à n'importe qui ou même une chose particulière à n'importe qui. Bien sûr, il faut tester les gens pour savoir en qui on peut avoir confiance. Mais vous êtes, frères et sœurs, membres du corps de Christ. La parole de Dieu nous dit que si l'un souffle, l'autre souffle. Votre souffrance, là, bien, Dieu, là, il ne veut pas que vous la portiez seule. Il veut que vous lui en parliez à lui, mais il veut aussi que vous créiez un espace où vous pouvez en parler à quelqu'un d'autre et à l'Église. Donc, c'est notre défi pour ce matin. Parle à Dieu et à l'Église de ce que tu vis. Quand je dis l'Église, là, ce n'est pas nécessairement que vous n'avez pas besoin de vous tenir à l'avant avec moi ce matin et dire tout ce que vous vivez, là, au micro. Mais c'est de choisir un frère ou une sœur avec qui vous pouvez partager. Et frères et sœurs, je comprends que parfois, il y a des choses qu'on vit qui sont très lourdes. Je me souviens d'avoir vécu quelque chose à un moment donné, puis j'étais dans la voiture avec d'autres gens, puis je me suis dit, c'est tellement lourd à porter, je ne sais même pas comment je vais être capable de dire ça, de mettre des mots sur ça. Mais ça m'a fait un peu peur aussi parce que je me suis dit, si je garde ça en moi, je sentais qu'il y avait une partie de moi qui allait mourir, que je ne serais plus capable de parler. J'allais perdre ma voix, j'allais perdre une partie de moi-même. Frères et sœurs, Dieu veut que vous soyez en train de marcher dans la liberté. Il vous appelle à vous libérer. Et parfois, parler, c'est une manière dont on se libère. Souvent, en fait. Faites confiance à Dieu et priez qu'il mette la bonne personne sur votre route. Et en attendant, ben, vous avez quelqu'un avec qui parler. Il est là-haut et vous entend. Prions. Éternel mon Dieu, ce matin, nous venons devant toi pour déposer nos cœurs devant toi. Nous savons, Seigneur, nous vivons dans un monde qui est injuste et ça nous confronte, Père. On a de la difficulté à réconcilier qui tu es, ton caractère, ta justice, ta bienveillance, ton amour, avec le fait que, mon doux, il y a donc bien des méchants, il y a donc bien des gens qui font n'importe quoi. Et on dirait qu'ils ont du succès, comme Habacuc nous dit, c'est comme s'ils font des petites cérémonies pour leur filet, hein, leur moyen de causer du tort aux autres. Ils sont tellement heureux, ils adorent, ils font une idole de leur force, de leur désobéissance, de ces choses-là qui font qu'ils ont le succès dans la vie. Et on ne comprend pas. Souvent, on ne comprend pas. Mais Seigneur, on n'a pas nulle part où aller d'autre que devant toi. Et on veut marcher ce matin dans l'exemple de tes enfants à travers les siècles. Et on veut te dire tout. On veut même t'inviter dans les détails de notre expérience. Et Seigneur, on ne veut pas marcher seul. On veut accepter, Seigneur, de faire partie d'un corps, de faire partie de l'Église. Même si parfois, certaines des injustices qu'on a vécues peuvent avoir eu lieu dans l'Église. Seigneur, on te fait confiance. Guide-nous vers les bonnes personnes. Donne-nous le courage de parler. C'est dans ton nom que nous prions. Amen.